et cesserait de prendre parmi ses descendants ceux qui gouverneront la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je veux les rétablir et les prendre en pitié. Cette histoire, qui a été ajoutée aux oracles de consolation de Jérémie, sont ajoutées justement pour marquer la volonté de salut de Dieu. Et elle est aussi ferme que la création. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mes paroles ne passeront pas. Il va encore plus loin. Il dit, le ciel et la terre passeront. Si aussi vrai que je suis Dieu, le ciel et la terre ne passeront pas. Et ma miséricorde non plus. Celle-là est assurée. Quels que soient les agissements des hommes. Et alors, on a rajouté à cela encore, probablement, un certain nombre de textes. Vous savez, ces textes sont très semblables à ceux du deuxième livre des rois. Et que les rois, les livres des rois racontent l'histoire de la royauté. Et ils s'intéressent évidemment à la fin de la royauté. Est-ce que la fin de la royauté est vraiment la fin du peuple? On dit non. Non, parce que Jéconias, ou bien Joachim, a été conduit en exil. C'est le dernier descendant, le dernier rejeton de la descendance de David. Et il est conduit en exil. Mais là, en exil, après un court séjour en prison, il est invité à la table du roi de Babylone. Il y a comme déjà une promesse de restauration. Et c'est là-dessus que se termine le deuxième livre des rois. Et tout ce qui se trouve ici, sont probablement de la même époque. Ce sont des morceaux d'histoire qu'on a retrouvés et qu'on a ajoutés par les rédacteurs définitifs. Mais, comme le dit bien l'introduction au livre de Jérémie, ce sont des passages que l'on appelle de style deutéronomiste, c'est-à-dire de cette école. Cette école qui a fait une transposition des archives de Jérusalem pour en faire une histoire du salut. Les archives notaient, les archives du palais royal, notaient les événements en les datant des règnes d'Israël et de Juda. Mais l'écriture, la Bible, c'est pas une copie de ces archives. Ce n'est pas des archives. C'est une réflexion sur les archives pour montrer comment notre histoire humaine est une histoire de salut. C'est-à-dire qui intéresse Dieu. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, à l'époque d'Abucodonosor, roi de Babylone, et de toute son armée, tous les royaumes de la terre soumis à sa domination, et tous les peuples étaient en lutte contre Jérusalem et contre toutes les villes de sa dépendance. Donc Jérusalem a tout le monde contre lui. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Va ! Apostrophe Sédécias, roi de Juda. Dis-lui, ainsi parle le Seigneur. Voici, je vais livrer cette ville aux mains du roi de Babylone, il l'incendiera. Il l'a assez dit. Hein. Et toi, tu n'échapperas pas à sa puissance, mais tu seras bel et bien capturé et remis entre ses mains. Tu pourras regarder le roi de Babylone, les yeux dans les yeux, et lui parler bouche à bouche. Puis tu iras à Babylone. Toutefois, écoute la parole du Seigneur, Sédécias, roi de Juda. Et tu ne mourras pas par l'épée, c'est en paix que tu mourras. Et comme il y eut des parfums pour tes ancêtres, les rois de Janis qui furent avant toi, de même on en brûlera en ton honneur et pour toi on récitera la lamentation. Hélas, Seigneur. La lamentation lors de l'enterrement. C'est moi qui le déclare, oracle du Seigneur. Et le prophète Jérémie rapporta toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem, tandis que l'armée du roi de Babylone menait le combat contre Jérusalem et contre les villes de Juda, qui tenaient à savoir Lachish et Azeka, car celles-ci tenaient parmi les villes de Juda, étant des places fortes. C'était la ligne Maginot de l'époque, la ligne de défense de Jérusalem. Et puis, à ce moment, et c'est une reprise au fond du chapitre 15 du Deutéronome, vous avez un petit passage sur la libération des esclaves. Vous savez que lorsqu'il y avait une année du jubilé, tous les esclaves devaient être relâchés. On recommençait à nouveau tous les 50 ans. Et on n'a pas beaucoup de signes concrets, disons, de traces dans l'histoire que cette année du jubilé, tous les 50 ans, ait été vraiment observée. Mais ici, voilà un exemple qui est donné, et à un moment crucial pour Jérusalem. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, après que le roi Sédécias eut conclu avec tout le peuple de Jérusalem un accord pour proclamer un affranchissement. Chacun devait renvoyer libre ses esclaves hébreux, hommes et femmes. Personne ne devait plus tenir en servitude un juif son frère. Tous les grands et tout le peuple qui était entré dans le traité avait compris que chacun devait renvoyer libre ses esclaves, hommes et femmes, et ne plus les tenir en servitude. Ayant compris, ils les avaient renvoyés. Après quoi, changeant d'avis, ils avaient repris les esclaves, hommes et femmes, qu'ils avaient libérés. Il les avait de nouveau réduits en servitude. Mais la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, « J'ai conclu avec vos pères, quand je les tirai du pays d'Égypte, de la maison de servitude, une alliance. » En disant, au bout de 7 ans, donc c'est une reprise du Deutéronome chapitre 15, sur la libération des esclaves, « Au bout des 7 années, chacun de vous libérera son frère hébreu, qui sera vendu à toi, 6 ans il sera ton esclave, puis tu le renverras libre chez toi. » C'est déjà l'année sabbatique. Il y avait l'année jubilaire, tous les 50 ans, et l'année sabbatique, tous les 7 ans. Et donc, il y avait cette loi, à un certain moment, qui disait, après 7 ans, ça suffit. Souvent, les esclaves hébreux, c'était des gens qui ne pouvaient pas payer leurs dettes. Et comme ils ne pouvaient pas payer leurs dettes, ils devenaient esclaves de ceux à qui ils devaient de l'argent. Mais on estimait que 7 ans c'était suffisant, c'était la peine maximale. Et de toute manière, après 50 ans, 7 fois 7 ans, on remettait tout à zéro, les compteurs à zéro. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis il dit, mais vos pères ne m'ont pas écouté, et aujourd'hui, vous aviez changé, vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux, en proclamant l'affranchissement de votre prochain, et puis maintenant vous avez changé d'avis. Et vous reprenez ces gens-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas fidèle à votre parole. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je vais un peu vite, verset 17, vous ne m'avez pas obéi en rendant la liberté chacun à son frère et prochain, et bien moi, je vais rendre la liberté sur vous, oracle du Seigneur, à l'épée, à la peste et à la famine. Vous êtes parjure, vous allez finalement payer. Celui qui agit contre la justice devient finalement la victime de l'injustice. Et puis il donne un exemple à ce qu'on appelle les récabites. C'est un passage qui se situe un peu plus haut, ce n'est pas du tout au moment de Sédécias, au moment de la prise de Jérusalem, c'est déjà de l'époque de Joachim. Et pour échapper aux bandes de pillards qui venaient du nord, et qui était en quelque sorte un mercenaire de Nabucodonosor, des gens abandonnent la campagne pour se réfugier dans la capitale. Ce sont les familles de Rekab. Il y a tout un exemple. Je vins donc prendre Yasna, fils de Yirmiyahu, fils de Abad-Sinia, etc.
je les amenai au temple du Seigneur dans la salle de Ben Yohanan, fils de Yigdaliahu, homme de Dieu, celle qui est contiguë à la salle des dignitaires, au-dessus de celle de Maaseïa, fils de Shalom, etc. On les met en sécurité dans le temple, mais devant les membres du groupe Rekabite, je mis des amphores pleines de vin, ainsi que des coupes, et leur dit, buvez du vin. Ah oui, mais c'était des nazis, c'est-à-dire des consacrés à Dieu. Ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Rekab, voilà, les Rekabites, fils de Rekab, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, de même vous ne devez pas bâtir de maison, ni faire des semailles, ni planter de vignes, ni avoir de possession, mais c'est sous la tente que vous habiterez toute votre vie. Donc ce sont des réfractaires en quelque sorte, un peu comme les Naturae Carta aujourd'hui à Jérusalem, qui sont des gens qui sont tout à fait contre l'État d'Israël, et qui n'utilisent pas la monnaie d'Israël, mais de préférence le dollar, mais qui sont contestataires à Jérusalem même, hein, dans le quartier de Mea Shearim. Ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont 300-400 peut-être. Mais enfin, ils sont là au milieu pour dire, nous sommes des nomades. Nous ne voulons pas un État d'Israël. Donc ce sont des anti-sionistes, mais qui habitent à Sion. Des choses comme ça, ça se voit dans le pays. Ailleurs, c'est un peu plus difficile. Et ce sont des contestataires, admis comme contestataires par l'État d'Israël.
Et il y en a parmi eux qui ne veulent même pas
apprendre l'hébreu moderne, ils se contentent de l'hébreu biblique.
Eh bien, c'est ça, c'est un exemple de gens qui sont en quelque sorte vraiment réfractaires, mais qui essaient,
nous dirons aujourd'hui ce sont des traditionnalistes, mais qui essaient de marquer une valeur.
Et cette valeur ici, c'est d'être vraiment consacré au Seigneur.
Pas boire de vin, pas se laisser entraîner par toutes sortes de plaisirs extérieurs.
Bon, ce sont au fond des anecdotes qui sont ajoutées.
Maintenant,
nous arrivons à un passage qui est plus important pour nous.
C'est ce qu'on appelle la passion de Jérémie. Le peuple passe par des souffrances.
Mais Jérémie lui-même, dans son existence personnelle, passe par des souffrances. Vous pourrez lire, au fur et à mesure que nous lirons ce texte, chapitre 36 au chapitre 45,
vous pouvez lire en filigrane
la passion de Jésus.
Et ce n'est pas pour rien
que dans la tradition juive, le serviteur souffrant d'Isaïe est considéré, si on le prend de façon personnelle,
comme étant Jérémie.
C'est de Jérémie qu'on parle. Mais, comme Jérémie épouse le sort d'Israël, ce serviteur souffrant, c'est aussi Israël.
C'est aussi la passion d'Israël.
Et ce texte des souffrances de Jérémie est un texte qui a été souvent médité et même parfois recopié de mémoire dans les camps d'extermination à Auschwitz, Treblinka, etc. pendant la Shoah par des juifs. On voyait bien qu'ils méditaient ce sort de Jérémie en essayant de le vivre eux aussi. Mais on nous raconte les choses d'un peu plus haut, on nous reprend les choses d'un peu plus haut. La passion de Jérémie, ça commence avec Joachim. Avec Josias, on suppose que ça allait assez bien. Jérémie était d'accord avec la réforme et entrait bien dans cette réforme. Mais avec Joachim, qui commence à lorgner vers l'Égypte, ça ne va plus si bien. La quatrième année de Joachim, donc on remonte beaucoup plus haut, vers 605. quatrième année de Joachim, fils de Josias, et roi de Juda, la parole que voici fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Prends un rouleau, tes œuvres complètes, quoi, hein. Tu vas faire un premier exemplaire de tes œuvres complètes. Prends un rouleau et écris dessus toutes les paroles que je t'ai adressées touchant Jérusalem, Juda et toutes les nations. Depuis le jour où je commençais à te parler, au temple de Josias, jusqu'aujourd'hui. Peut-être qu'en entendant tout le mal que j'ai dessein de leur faire, ceux de la maison de Juda reviendront, se convertiront, chacun de sa voie perverse. Alors je pourrai pardonner leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch. Donc ici, c'est raconté, semble-t-il, par quelqu'un d'autre. Puisque quand on ne dit pas qui écrit, c'est probablement Baruch qui écrit. Ici, c'est possible que ce soit lui aussi, mais c'est introduit en tout cas par un autre rédacteur. Jérémie appela Baruch, fils de Neria, qui, sous sa dictée, écrivit sur un rouleau toutes les paroles que le Seigneur avait adressées au prophète. Est-ce que c'est un résumé qui a été écrit à un moment déterminé, ou est-ce que c'est Jérémie qui dictait au fur et à mesure de ses oracles, jour après jour? Difficile à dire. Mais en tout cas, à un certain moment, ça a été un ensemble, un petit livre, un rouleau, quoi. Or, la cinquième année, donc l'année suivante, de Joachim, fils de Josias, et roi de Juda, au neuvième mois, décembre, donc au neuvième mois, on convoqua pour un jeûne devant le Seigneur tout le peuple de Jérusalem et tout le peuple qui pourrait y venir des villes de Juda. Alors, Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis empêché, n'ayant plus mes entrées au temple du Seigneur. On ne me veut pas là-bas, je suis un descendant des prêtres d'Anatot, ça ne va plus. On me met à la porte. Mais tu iras, toi.
Chapitre 36, verset 5.
Ah oui. Mais tu iras, toi. Lire au peuple, dans le rouleau que tu as écrit sous ma dictée, toutes les paroles du Seigneur, en son temple, le jour du jeûne, le 9 av, le 9 du mois de av. De même, tu les liras à tous les Judéens venus de leur ville. Donc quand ils viennent pour la fête, à Jérusalem pour le jeûne, eh bien, tu leur liras à ma place. Peut-être, dirigeront-ils vers le Seigneur leurs supplications et reviendront-ils chacun de sa voie perverse. Car grande sont la colère et la fureur dont le Seigneur a menacé ce peuple. Baruch, fils de Neria, observa ponctuellement l'ordre que lui avait donné le prophète Jérémie de lire dans le livre les paroles du Seigneur en son temple. Donc il y a encore ce caractère sacré en plus. Il lut dans le livre les paroles de Jérémie. On était au temple du Seigneur, dans la salle de Gemariahu, le fils du secrétaire Shaphan, un dignitaire de l'époque de Josias, dans la cour d'en haut, à l'entrée de la porte neuve du temple du Seigneur. Tout le peuple pouvait entendre. Un moment solennel, parce que c'est vraiment la voix de Jérémie adressée à tout le peuple de manière officielle, en quelque sorte. Or, Micaïhu, fils de Gemariahu, fils de Shaphan, ayant écouté les paroles du Seigneur tirées du livre, descendit au palais royal, à la salle du secrétaire. Là, tous les dignitaires tenaient séance. Elishama, le secrétaire, de Layahu, fils de Shemayahu, El-Nathan, fils de Agbor, Gemariahu, fils de Shaphan, Tzidkiyahu, fils de Hananiahu, et tous les autres dignitaires. Le Yahu, c'est toujours Dieu, hein, le Seigneur, Yahvé. Hein. Ou Yo, quand c'est au début du mot, Yahu, ou Yah, quand c'est à la fin du mot. Mikaïhu leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues quand Baruch en faisait la lecture aux oreilles du peuple. Baruch, c'est le béni, hein, Baruch. Baruch Adonai. Akadosh Baruch Hu. Akadosh, le saint, Baruch Hu, béni soit-il. Donc Baruch, c'est hein, le béni. Donc il entendit les paroles quand Baruch en faisait la lecture aux oreilles du peuple. Alors, à l'unanimité, les dignitaires envoyèrent à Baruch Yehudi, donc le juif, fils de Netanyahu, et Shelemiahu, fils de Cushi. Cushi, c'est un Éthiopien. Un Cushite, c'est un Éthiopien. Un noir. Pour lui dire, ce rouleau où tu as lu pour le peuple, prends-le. Et viens. Baruch, fils de Neria, prit donc le rouleau et arriva près d'eux. Ça devient, c'était officiel sur le plan religieux, au temple, ça va devenir officiel sur le plan politique. Le roi, chez le roi, au conseil royal. Baruch, fils de Neria, prit donc le rouleau et arriva près d'eux et lui dirent, assieds-toi et donne-nous la lecture. Baruch leur en donna la lecture. Après avoir entendu toutes les paroles, effrayés, ils se tournèrent l'un vers l'autre et dirent, il nous faut absolument informer le roi de tout cela. C'est le conseil, mais on n'a pas encore parlé du roi. Ils interrogèrent Baruch, apprends-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. Baruch leur répondit, Jérémie me les dictait toutes, et moi je les écrivais avec de l'encre sur ce livre, ce rouleau donc. Les dignitaires dirent alors à Baruch, va-t'en, cache-toi, ainsi que Jérémie, que nul ne sache où vous êtes. Puis ils se rendirent chez le roi à la cour du palais, laissant le rouleau en dépôt dans la salle du secrétaire Elishama, et ils informèrent le roi de toute cette affaire. Ça vient à l'autorité hein, suprême. Le roi de Jérusalem, c'est plus grand-chose hein, à l'époque, il faut quand même vous dire. Peut-être quelques milliers d'habitants. Si on ajoute hein, les quelques villes tout autour, Bethléem, Hébron, les environs, ça fait quand même pas tellement. Mais c'est un royaume quand même. Le roi envoya Yehudi chercher le rouleau. Celui-ci l'apporta de la salle du secrétaire Elishama et en fit lecture devant le roi et tous les dignitaires, debout autour du roi. C'est Yehudi maintenant. Le roi était assis dans ses appartements d'hiver. On était au 9e mois de décembre. Et le feu d'un brasero brûlait devant lui. Chaque fois que Yehudi avait lu 3 ou 4 colonnes, vous savez, les peaux sont cousues ensemble, hein, ça fait des morceaux à peu près comme cela. Et, sur un morceau de peau, il y a 3 ou 4 colonnes à peu près. Hein. Donc ce sont des détails tout à fait précis. Chaque fois que Yehudi avait lu 3 ou 4 colonnes, le roi les lacérait avec un canif de scribe et les jetait dans le feu sur le brasero, jusqu'à ce que le rouleau entier fût consumé dans le feu du brasero. Voilà, les paroles sont passées au feu, il ne reste plus rien. Détruites. Mais ni le roi, ni aucun de ses serviteurs, à entendre toutes ces paroles, ne furent effrayés et ne déchirèrent leurs vêtements. Et on déchire son vêtement, ce qui signifie « je suis atteint, je suis frappé, cette parole m'atteint, moi ». Et je déchire, hein, on déchirait le haut du vêtement, pour dire « cela s'adresse à moi, je suis concerné immédiatement ». Personne ne fut effrayé et ne déchira ses vêtements. Et pourtant, El Nathan, Delayahu et Gemariahu avaient insisté auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le rouleau, mais il ne les écouta pas. Et il ordonna au prince Yeraméel, à Seraïahu, fils de Azriel, à Shelemiahu, fils de Abdeel, de saisir Baruch, le scribe, et Jérémie, le prophète. Mais le Seigneur les avait cachés. Ils se sont sauvés quelque part. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie, après que le roi eut brûlé le rouleau avec les paroles qu'avait écrites Baruch sous la dictée de Jérémie. « Prends un autre rouleau, écris dessus toutes les paroles qui figuraient déjà dans le premier rouleau, brûlé par Joachim, roi de Juda. » Recommence, copie conforme. Et sur Joachim, roi de Juda, prononce, ajoute quand même un petit quelque chose pour Joachim. Et sur Joachim, roi de Juda, prononce, ainsi parle le Seigneur, tu as brûlé ce rouleau ? En disant, pourquoi y avoir écrit, il est certain que le roi de Babylone viendra, saccagera ce pays et en fera disparaître hommes et bêtes. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur sur Joachim, roi de Juda, il n'y aura plus personne sur le trône de David, et son cadavre sera jeté à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Lui, sa descendance, ses serviteurs, je les punirai de leurs méfaits. J'amènerai sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les gens de Juda, tout le malheur dont je les ai menacés sans qu'ils écoutent. Jérémie prit un autre rouleau, le remit au scribe Baruch, fils de Neria, qui écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé Joachim, roi de Juda. De plus, beaucoup de paroles du même genre y furent ajoutées. Et c'est ce que nous avons dans les 24 premiers chapitres. Enfin, ce qu'il en reste. Voilà. Nous allons nous arrêter ici. Mais, puisqu'il y en avait un certain nombre, comment savoir quel était le vrai ? Ah, bonne question. Mais je ferai encore une analogie avec les différents programmes des partis. Comment savoir quel est le bon parti et pour qui voter ? Vous le savez, vous autres ? Est-ce qu'il y a le bon choix ? Mais non, il n'y a pas le bon choix. Mais vous sentez très bien que si vous votez pour quelqu'un, c'est parce que dans son programme, il y a quelque chose qui vous semble important à vous. Donc, la réalité du prophète, ce n'est pas quelqu'un qui dit une parole de l'extérieur, c'est quelqu'un qui dit une parole à des personnes. Et donc, choisir le vrai prophète, c'est découvrir dans ce qu'un prophète dit quelque chose qui nous interpelle personnellement. Mais le prophète a beau parler, il a beau être clair, il a beau dire à ses décias, voyez Joachim, ça va barder, tu n'en sortiras pas vivant. Vous savez, c'est pas pour ça qu'on le croit, hein. Ou bien, même si on le croit, on ne pense pas que ce qu'il dit va arriver. Mais non, Jérusalem ne tombera pas. Et nous avons toujours des principes ou des valeurs auxquelles nous nous accrochons. Le prophète n'est pas quelqu'un qui dit ce qui va arriver. Le prophète est quelqu'un qui met en liberté. Et nous pensons souvent que le prophète, c'est quelqu'un qui va vous dire ce qu'il va. Bon, il dit nécessairement, si vous continuez à vivre comme vous vivez, vous n'en faites pas. Nabucodonosor va se venger, vous ne le payez pas, il va venir. Il va envoyer les créanciers, il va envoyer les huissiers, rien à faire. Donc il va venir lui-même. Donc, c'est la logique. Si vous adoptez la logique humaine, vous entrerez dans cette logique humaine. Vous dénigrez les gens, ils vous dénigreront. Vous faites la violence, vous serez victime de la violence. C'est Il dit simplement, voilà le jeu humain. C'est le jeu que vous jouez. Maintenant, Dieu se trouve à un autre niveau. Et il faut découvrir, dans ce que vous vivez, cette interpellation libre de Dieu. Dieu est quelqu'un qui vous rend libre et qui vous fait libre. Et si vous faites le mauvais choix, il accepte que vous fassiez le mauvais choix. Et si le mauvais choix vous fait du tort, il accepte que vous viviez ce tort et il le vit avec vous. Mais nous avons de Dieu souvent des images comme s'il était maître de tout, il pouvait faire n'importe quoi. Quand on dit que Dieu, que tout est possible pour Dieu, ça veut dire que pour Dieu, tout est possible dans l'ordre de l'amour. Et il appartient à l'ordre de l'amour de ne pas forcer la liberté de quelqu'un. Vous aimiez quelqu'un, ce quelqu'un s'éloigne de vous, vous avez essayé de parler avec lui, il ne veut pas vous entendre pour le moment, mais laissez, ne vous acharnez pas, laissez-le donc être libre. Mais pour ça, il faut faire une confiance terrible. Quelqu'un vous en veut, vous ne savez pas pourquoi, vous n'en voulez pas nécessairement cette personne. Vous avez essayé, laissez. C'est difficile hein, de jouer le jeu de la liberté. C'est la réalité dont nous avons le plus peur et que nous désirons le plus. Parce que cette liberté nous rend ouverts, sensibles et donc vulnérables. Et c'est ce qu'il veut nous dire, mais il le dit avec les paroles de son temps, et il le dit comme il le ressent. Quand il ressent Dieu comme celui qui châtie, Dieu n'est pas quelqu'un qui châtie. C'est la manière dont nous ressentons les choses. Et Babylone n'est pas, fondamentalement, n'est pas un fléau envoyé par Dieu. Ce sont les réalités des hommes. Et le pouvoir, l'entrée du pouvoir, et donc de plus en plus de possessions, et alors les Hittites ont dominé pendant une certaine époque, et puis ils ont décliné, les Assyriens sont venus. Les Assyriens sont arrivés à un sommet, et puis ils ont décliné, et les Babyloniens arrivent. Et de l'autre côté, c'était les Mèdes hein, qui levaient la tête, et puis Cyrus, hein, le Perse, les a rabattu le caquet. Et puis c'est Cyrus qui est arrivé et qui a pris la place de Nabucodonosor. Ça, c'est le jeu des humains. Et vous voyez ce que Jérémie veut nous dire, mais ne faites pas des drames. Ce sont les réalités humaines qui sont dures, qui sont terribles. Il y a des massacres au bout partout. Et même si vous vous garantissez le plus possible, les voleurs peuvent encore percer, ils vont devenir encore plus malins que tous vos systèmes d'alarme, etc. Et vous allez ajouter système à système et ils vont devenir toujours plus forts. Alors, essayez de jouer le jeu inverse. C'est-à-dire le jeu de la confiance. On ne pouvait évidemment pas s'attendre à ce que M. Bush aille prendre une tasse de café avec Saddam Hussein pendant un mois ou deux et discute avec lui. Parce que, a priori, on ne peut pas se mettre d'accord. On se fait une idée de l'autre et on a peur de l'autre. Mais pourquoi? Et justement, le jeu, mais ce n'est plus un jeu, c'est du sérieux. Ce que joue par exemple le père Émile Choufani, c'est exactement le contraire. Il dit, c'est votre ennemi, allez le voir. Il vous en veut, ne veut pas vous recevoir, mais vous en faites, donnez-lui un petit coup de téléphone. Ça ne va pas? Il ne veut pas répondre? Écrivez-lui un petit mot. Pour qu'il sache que vous ne lui en voulez pas. et qu'ils comprennent que vos intérêts sont là et que les siens sont là. Et on va discuter même sur le plan des intérêts. C'est difficile, hein, voyez, les négociations. Regardez le temps que ça prend quand on veut négocier. Les nuits entières. Et c'est, je vais lâcher ça si l'autre lâche ça. Et c'est pas encore le jeu de la confiance, hein. C'est vraiment difficile d'être vraiment libre. Et quand on voit une personne qui fait des pas dans ce sens-là, c'est un prophète. Un prophète, c'est vraiment cela. C'est quelqu'un qui est libre intérieurement et qui garde son tempérament, son caractère, hein. Si c'est quelqu'un, hein, qui est un peu dépressif, comme Jérémie, c'est avec son tempérament de dépressif qui vient. S'il y a quelqu'un de plus fort, de plus vigoureux, comme Ézéchiel, il passe à travers tout, on dirait qu'il est insensible. Mais voilà, c'est avec son caractère qu'il passe. Mais ils sont tous les deux des prophètes. Comment discerner? Comme on peut. Comme on peut. Mais nous voudrions encore, vous voyez, vouloir rattraper, voudrions être sûr. De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être sûr? Être sûr, moi, c'est-à-dire mesurer les événements à moi. C'est ça la sécurité. J'ai choisi mon système d'alarme. C'est le meilleur, moi. C'est celui que je crois le meilleur, puis c'est tout. Et le voleur, s'il veut voler, il viendra quand même. Avec votre système d'alarme. Il trouvera bien le moyen de déjouer. J'en ai eu des exemples tout récents de personnes qui m'ont raconté. On trouve un nouveau système. On vient même vous voler dans votre chambre, vous étant dans la chambre.
Dans le lit.
Oui. Non, mais simplement en dépendant, commençant par un spray. C'est tout. Mais non, ça veut dire que nous plaçons nos sécurités à partir d'un certain sentiment de sécurité. Nous voulons mettre les choses, les garder sous notre contrôle. Et elles nous échappent. Et alors, un prophète, c'est vraiment quelqu'un qui est rempli d'une autre assurance. Je ne parle plus de sécurité, mais d'une assurance intérieure. Je suis aimé par Dieu, quoi qu'il m'arrive. Quoi qu'il m'arrive. Et la maman qui vient d'amener son petit Luca, il était là l'an passé dans le ventre de sa maman. Et sa maman avait peur. Et il avait des raisons d'avoir peur. Et on a parlé un petit peu avec elle, avec lui. Elle m'a demandé de bénir ce petit enfant. Elle cherchait aussi, hein, une sécurité du côté du Seigneur. Et je trouvais ça très beau. Et je l'ai fait tout simplement. Mais je lui ai dit, confions-le vraiment au Seigneur. Et c'est dangereux, c'est vrai, c'est dangereux. Et il ne faut pas se leurrer, il faut pas. Ça ira bien. J'avais aucun droit de lui dire, ça ira bien, tout ira bien, le petit sera bon. Non. Et je suis heureux, hein, de voir ce petit enfant. Et c'est ça, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de Dieu. Mais ce n'est qu'après coup qu'on peut le dire. Mais tous ces livres ont été écrits aussi après coup. Même si les oracles datent d'avant, bien sûr. Mais le livre a été fabriqué tel qu'il est là, après coup. Pour vous dire, voyez, le chemin de Jérémie est vraiment un chemin de Dieu. Et lui, quoi? Ben lui, il va disparaître lamentablement. Lamentable, on ne sait pas comment. On va l'entraîner en Égypte, juste là où il ne voulait pas. Donc, vu de l'extérieur, C'est un échec, cette vie de Jérémie, vu de l'extérieur. Yarim Yahou. Dieu fera se dresser. Et si ce livre est écrit comme tel, c'est pour vous dire, mais faites confiance au regard de Dieu, au-delà de toutes vos assurances possibles. Toutes nos assurances, ce sont des idoles, des horreurs, comme on le dit, des néants, des impuissances. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre, et donc on vit avec notre temps, c'est sûr, mais on accepte la relativité de ces choses dans lesquelles nous vivons. Et c'est Jérémie, c'est cela. Et donc il parle avec son langage, et il voit comme châtiment des réalités qui vous tombent dessus, et nous faisons, nous, un rapport entre ce que nous avons vécu, ou ce que nous avons fait de mal, et ce qui nous tombe dessus maintenant. Et nous y voyons un châtiment. Est-ce que Dieu châtie ? Un grand Dieu, non. Dieu est Dieu. Mais nous le ressentons de temps en temps comme bénédiction, de temps en temps comme malédiction, à travers ce que nous vivons. Mais il est Dieu.
Il n'y a pas de fait brut, il y a le sens qu'on lui confère, et un sens au plan religieux comme au plan profane explicatif.
Tout à fait. Mais simplement, Jérémie est là pour vous dire, les réalités que vous vivez ont un sens sous le regard de Dieu. Et j'essaye de vous le dire avec les mots que j'ai, et avec mon tempérament. Et donc, on peut en avoir beaucoup des prophètes. Maintenant, choisissez-vous. Prenez la responsabilité de votre choix. Vous vous trompez ? Bon. Prenez la responsabilité, éventuellement, de vous tromper. Pourquoi faut-il que nous soyons parfaits ? Alors que nous ne le sommes pas. Et donc nous faisons des erreurs, et donc nous fautons à certains moments. Et la preuve de cette alliance nouvelle, c'est qu'il va venir dans nos enfers nous pardonner, c'est-à-dire nous aimer, même dans notre liberté, dans nos actions, comme Jérémie le dit, perverses. Les agissements de votre cœur mauvais. Même là, nous sommes aimés. C'est difficile d'accepter quelqu'un qui nous aime si loin. C'est pas évident du tout. Parce que si nous acceptons vraiment quelqu'un qui nous aime jusque-là, c'est à charge pour nous de relancer le processus pour les autres et d'aimer les autres, même quand ils nous en veulent. Et c'est pas évident, ça, hein. Il y aura toujours, comme Jérémie lui-même, ce sentiment de vengeance. Allez, tue-les, qu'on ne les voit plus, qu'ils ne viennent plus sonner tous les jours à ma porte, hein, voilà. C'est normal. Mais ce ne sont pas des choses plus merveilleuses que celles que nous vivons. Mais aussi merveilleuses. C'est d'ailleurs pour ça que le livre est écrit. Pour que nous y prenions une lumière, pas pour que nous fassions des comparaisons avec ce que nous vivons. Bon, il y a des analogies, mais ce n'est pas une comparaison. Hein. Nabucodonosor n'est pas Bush, ni Saddam Hussein, ni tous ceux que vous voulez. Succédant à Jéconias, Konias ou Jéconias, c'est Yoyakim. Je suis au chapitre 37, fils de Joachim, Sédécias, fils de Josias, donc c'est l'oncle et le neveu. Sédécias, c'est l'oncle de Jéconias. Donc Sédécias, fils de Josias, devint roi. Donc on vous met encore une dizaine d'années plus tard. Nabucodonosor, roi de Babylone, l'avait établi roi au pays de Juda. C'était une créature de Nabucodonosor, effectivement. Mais ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles du Seigneur. Les paroles que le Seigneur prononça par le ministère du prophète Jérémie. Et donc, on met les choses en rapport. Mais ça ne va pas mieux pour Sédésias que ça avait été pour Joachim. Voilà. Le roi Sédésias envoya Yukal, fils de Chénémia, et le prêtre Tephaniahou, fils de Maséra, vers le prophète Jérémie avec ce message. Adresse donc une prière pour nous, au Seigneur notre Dieu. Quand on a besoin du prophète, on va le chercher. Hein. Sinon, on le verrouille au corps de garde. Or, Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. Il nous dit pour que nous sachions bien que c'est avant. Cependant, l'armée de Pharaon était sortie d'Égypte. À cette nouvelle, les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem avaient dû lever le siège. Hein? Au début, en 597. Alors la parole du Seigneur fut adressée au roi, au prophète Jérémie, en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, vous donnerez cette réponse. L'armée de Pharaon est sortie à votre secours. Point d'interrogation. L'armée de Pharaon est sortie à votre secours. Il vient pour vous délivrer. C'est un ami, le Pharaon. C'est là. Elle va s'en retourner en son pays d'Égypte. Les Chaldéens reviendront attaquer cette ville, la conquérir et y mettre le feu. Vous ne perdez rien pour attendre, parce que les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, vont se retourner contre l'armée égyptienne. Elle va devoir rentrer dans ses foyers. Et ils reviendront. Donc vous voulez temporairement aller du côté de l'Égypte, mais ne vous en faites pas, c'est Nabucodonosor qui est le plus fort. Alors quoi? Vous allez continuer à laisser massacrer votre peuple? Ou bien vous rendre à lui? Et alors on l'accuse de défaitiste, de collabo, c'est normal. Ainsi parle le Seigneur. Ne vous abusez pas vous-même en pensant, c'est définitivement que les Chaldéens s'en vont de chez nous. Car ils ne s'en vont pas. Quand vous auriez taillé en pièces toute l'armée des Chaldéens en guerre contre vous, et qu'il n'en resta que des blessés, ils se dresseraient chacun sous sa tente